Oui. Alors, ouverture de la séance, lecture et adoption de l'ordre du jour, enregistrement de la séance du Conseil des maires du 10 février 2021, procès verbal de la séance précédente, lecture et adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 janvier, demande de rencontre, correspondance, comité MRC, gestion financière et administrative, aménagement du territoire, émission des certificats de conformité, modification au schéma d'aménagement revisé, cours d'eau et environnement, PRMHH, PGMR, développement économique, affaires nouvelles, période de questions, prochaine réunion du Conseil des maires et levée de la séance. Une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît.
Stéphane,
on pause.
Là,
Keska.
Oui, Stéphane Keska, vous avez dans le bas de votre écran réaction et quand vous posez là-dessus, il y a comme une petite main. Ça signifie des applaudissements, mais c'est une bonne façon de lever votre main pour parler ou de proposer quelque chose. À ce moment-là, je vais tout vous voir parce que la plupart des caméras sont fermées à cause de l'instabilité de notre lien Internet. Est-ce que ça prend une proposition pour l'enregistrement? Louis, je me rappelle jamais.
Oui.
Alors, quelqu'un propose l'enregistrement. Guy Roy, merci beaucoup. Procès verbal de la séance précédente, lecture et adoption du procès verbal. Comme vous l'avez tous reçu, est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou si c'est inséré des coquilles, des réactions par rapport au procès verbal? Ça va? Une proposition d'acceptation du procès verbal?
Ah.
Mon Dieu Seigneur, bravo, vous avez bien compris. François Barry, merci. Demande de rencontre?
On avait eu, en fait, il y a 4 demandes de rencontre en attente. Soit il y avait le service 2-1-1 qui vont venir nous rencontrer. Également, Simon Lemieux de l'organisme Grosbec. Monsieur Marc Delceux également qui va venir nous présenter un projet au niveau du guide citoyen. Il y avait également une demande de rencontre pour l'ensemble des élus également avec Récupération Frontenac pour faire le point sur la dernière année de l'entente et débuter un peu la réflexion au niveau de la prochaine entente qui va se conclure, l'entente actuelle qui va se conclure l'année prochaine.
Merci. Correspondance?
Il y avait 2 correspondances. En fait, la première, je laisserai peut-être Mme Boucher résumer la correspondance de l'organisme Unis pour la faune.
On a reçu une demande de Unis pour la faune qui veulent demander, en fait, dans leur demande, ils ont 3 éléments. Un, c'est d'ouvrir le plan de gestion le plan de gestion du territoire de Virginie 2020-2027 du ministère de la Faune, Forêt et Parcs afin d'ajouter certaines mesures qu'eux préconisent. Ensuite, d'ajouter également l'interdiction, si on veut, d'abattre les serres qui ont 3 pointes et moins. Et finalement, de faire partie de la table de gestion intégrée des ressources naturelles du ministère de la Forêt, Faune et Parcs. Donc, ils demandent que ça soit acheminé à chacune des municipalités et ils demandent également si on veut adopter une telle résolution d'appui.
Donc, le suivi sera fait au prochain conseil. La prochaine correspondance, M. Vachon.
Merci beaucoup. Dans autre correspondance. Oui, c'est une demande qu'on a eue de la Ville de Thetford pour changer le représentant qu'on a à l'heure actuelle sur le conseil d'administration du Musée minéralogique et minier. On a également reçu une lettre du Musée minéralogique et minier qui nous explique les circonstances entourant cette demande-là. Et le musée dit que les choses ont été faites dans les règles et ne désire pas aller plus loin. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va répondre à la Ville en leur disant qu'on a bien pris acte de la situation, mais que c'est plus un organisme qui est pas satisfait, mettons, je vais utiliser d'autres mots, là, de son représentant à faire cette représentation-là. Est-ce que ça vous va?
Oui.
C'est beau, merci. On a également, au niveau de la correspondance, une lettre qu'on a envoyée au député qui a été nommé par le premier ministre concernant Internet haute vitesse, dans laquelle on exprime notre, un peu notre découragement de voir que malgré le fait que tous les députés de la CAQ sont d'accord, que malgré le fait que beaucoup de représentations ont été faites auprès de Bell, le gouvernement fédéral, que rien ne bouge, que ça avance à pas de tortue, alors on exprime un peu notre impatience vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances, Louis?
Non.
Ça va, merci. Comité MRC, alors j'inviterai les gens qui ont eu des réunions à nous en faire part. Brièvement.
Monsieur Hamel.
Vous levez votre main s'il y en a eu, s'il n'y en a pas eu.
Oui, mais une rencontre qui a eu lieu quand même pour vous informer. Vous avez peut-être vu passer dans les médias récemment qu'on va sûrement entendre parler tout à l'heure, concernant un bassin pour être capable de répondre aux attentes du BAP, c'est-à-dire certains bassins de sédimentation. Donc, un projet pilote qui sera mis en place par le Québec, dont le financement a été, bien sûr, accordé. Une rencontre qui a quand même réuni plusieurs intervenants, une belle participation de la ville de Thetford, du service d'ingénierie. Donc, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui se passe. On a été capable d'avoir aussi les propriétaires miniers, les sociétés de végétalisation, que ce soit Véridis, que ce soit tout le monde autour de la table. Beaucoup de chapeaux qui s'est fait de la part de Grosbec. J'y assistais en tant que maire de la municipalité, mais je vous rapporte quand même l'information parce que c'est important ce qui est en train de se passer, car le calendrier des réalisations est quand même assez rapide. On parle de certaines réalisations de projets de pilote sitôt en mai ou en juin. Bien sûr, si jamais la direction régionale de Chaudière-Appalaches décide d'aller à la même vitesse que tout le monde, un peu dans ce dossier-là. Mais ça a quand même été assez intéressant. Puis je vous dirais que ça a probablement été une première dans la région d'avoir autant d'intervenants autour de la part de réalisation et de solutions concrètes en environnement. Et j'en profite et je termine avec ça, M. Vachon, si vous me permettez, parce que exactement, il était mention des résidus miniers, parce que les compagnies, c'est sûr qu'eux, s'ils ont une possibilité, on donne l'exemple tout à l'heure dans une résolution sur le magnésium, d'exploiter les résidus miniers, c'est sûr que la première partie, ils vont vouloir aller chercher ceux qui sont plus facilement accessibles et d'être capable aussi de faire d'une pierre deux coups en environnement. Donc, je pense que tout à l'heure, la résolution sur le magnésium au niveau des matériaux stratégiques va aussi nous permettre d'avoir notre pierre deux coups au niveau environnemental. Alors, je pense que ça va être important d'y aller. C'est pour ça que je vais faire le lien entre les deux résolutions et vous dire que ça s'est passé et de, bien sûr, suivre les évolutions qu'ils vont avoir dans ce dossier-là.
Merci. Monsieur Binet?
Oui, peut-être trois...
Votre micro est fermé.
Oui, là, il est ouvert. Trois comités. Le premier, peut-être Cynthia pourra compléter, là, mais il y a eu un comité environnement depuis le dernier conseil des maires. On travaille sur une politique de gestion des cours d'eau là, après avoir eu quelques informations là, de la MRC voisine. Là, on était tous là. Je pense que c'était une présentation du conseil des maires justement en décembre ou novembre, là, de mémoire. Là, c'était novembre. Donc, on va sûrement aboutir ce dossier-là à la MRC, au Conseil des maires, au courant de l'hiver, mars. Donc, merci Cynthia de me souffler les réponses. L'aménagement également, un comité qui a eu lieu concernant un peu les phases du schéma d'aménagement. Là, on a eu un beau portrait de situation sur le développement, notamment résidentiel, le développement en lien avec des statistiques là, de construction sur le territoire. Fait que ça aussi, c'est des choses qui se travaillent et qui vont aboutir au niveau du Conseil des maires ultérieurement. Et le musée, la vie fait bien les choses. Des fois, là, le mois dernier, je vous ai dit que j'attendrais de voir ce qui se passait, mais finalement, vous avez eu un peu un aboutissement ce soir de face aux demandes de la ville puis versus la demande du musée. Mais j'avais un certain malaise à faire un compte-rendu le mois dernier parce que, justement, vous savez pourquoi, là, j'ai voté en dissidence d'une sur un point parce que je croyais, évidemment, et je continue de croire que l'intérêt du musée n'était pas desservi sur un élément. Donc, j'ai fait mon travail d'administrateur, représentant de la MRC, fait que c'était un des éléments le mois dernier qui m'avait un peu occasionné un malaise pour lequel je ne m'étais pas avancé, mais là, maintenant, c'est fait. Mais il y a eu une autre rencontre du musée depuis, puis là, sous peu, on va être capable d'annoncer le nouveau directeur général. Il y a un processus qui a été lancé, puis là, ben, il va être rendu à l'étape de le nominer. Donc, il y a eu aussi une vérification du plan d'action. Vous avez vu que le musée actuellement est en relance d'activité suite aux activités de déconfinement qui sont permis. Donc, on voit que les gens avaient hâte de se relancer un peu dans la relance d'activité culturelle, là, puis sont très proactifs à ce sujet-là présentement. Donc, voilà pour mon compte rendu.
Merci. Madame Patry?
Oui, moi, j'ai eu la TVCRA, dire que l'année avance bien, les enregistrements vont bien, malgré le fait que ça demande beaucoup d'efforts, on s'entend, la désinfection entre les invités et tout. Je vous invite à aller voir le résultat qui est rendu là, sur Cogeco ou sur YouTube. Aussi souligner qu'on a commencé à diffuser les capsules linguistiques de M. Fecteau, des petits bijoux. Fait que si vous avez de l'intérêt, allez voir ça. Ça se diffuse là, entre les émissions. Il y a beaucoup de beaux projets aussi que la TVCRA a soumissionné. Certains ont déjà commencé à rentrer. Fait que malgré la COVID, là, ça travaille fort de ce côté-là. On a eu aussi le comité de développement agroalimentaire. Je me permets de dire que c'est un mot juste de beau comité parce qu'il y a des beaux projets. 2021, on devrait voir l'aboutissement du centre de transformation. Fait que tout le monde travaille très fort dans ce sens-là. PGMR, on a un suivi déjà à l'ordre du jour, fait que je vais m'abstenir. Puis le FRR2, on est toujours en discussion, fait qu'il n'y a pas vraiment rien à présenter. Juste vous dire qu'on travaille fort pour sortir quelque chose pour ce printemps. C'est tout.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Steven.
Merci, Mme Paté.
Steven?
Oui, allez-y, M. Laprise. Oui.
On va en parler tout à l'heure. C'est le 25 janvier, le comité communautaire, qu'on va dire, là, je cherche le titre. Là. Et puis, on parlait surtout, que vous allez parler tantôt, le transport inter-MRC, tout ça.
La table de développement des communautés de la MRC.
Fait que j'ai assisté à la réunion comme
observateur.
De toute manière, vous allez en parler plus tard. On a une autre réunion au mois de mars. Puis je vous avais suggéré d'emmener, quand il a parlé du comité de transport pour la région, puis les interrégions, tout ça, de vous emmener ça à la MRC. C'est tout. Merci.
Merci. Aussi au niveau, il y a une rencontre au niveau du comité incendie, puis il y a une discussion également qu'on l'avait poursuivie au niveau du comité administratif. Aussi en suivi de la dernière rencontre, qu'il y avait eu une demande de M. Jean-François Hamel concernant la situation au niveau de la problématique en lien avec l'émission par la municipalité de permis de feu. Qui était acheminé au niveau, après ça, des différents services incendies, comme la municipalité était desservie par soit le service incendie au niveau de la région, au niveau de la MRC de l'Érable ou le service de la ville de Thetford. Et également, suivi avec COCA pour ce qui est un peu l'acheminement des dessertes en fonction d'un service ou de l'autre, en lien avec d'où était fait l'appel en fonction du territoire et où les permis de feu avaient été émis en fonction des différents services. Les vérifications qu'on a faites à l'aide à l'interne ici du coordonnateur nous avaient apporté l'information comme quoi que de notre côté, l'information qu'on avait au niveau des différents protocoles établis autant entre les différents services incendies, soit du côté de l'érable avec le poste de Saint-Ferdinand ou la ville de Thetford était bien établie entre les autres pour transférer l'information au niveau des permis de feu entre les deux services incendies, mais également auprès de COCA que peu importe que l'information aux autres qui nous ont fourni, que peu importe le lieu ou l'instance qui a émis les permis de feu, il y avait un suivi qui était fait automatiquement s'il y avait un permis de feu en vigueur au niveau du service qui était déployé. ce qu'on a reçu aussi comme information, peut-être en lien avec un événement qui est arrivé dernièrement, je pense au mois de novembre dernier, par rapport à un déploiement. C'est vraiment pas en lien avec le fait qu'il n'y avait pas eu de permis de feu démis, mais bien que le permis de feu était échu. Donc, c'était pour ça que, malgré que le permis avait été échu depuis quelques jours en lien avec l'intervention, que malgré qu'il y avait un permis, qu'il y avait quand même eu un déploiement au niveau du service incendie. On en a discuté également, comme j'avais mentionné, au niveau du CA. Puis, je pense que l'élément qui était à valider, c'était vraiment de travailler directement avec chacun des services incendie en lien avec COCA pour s'assurer vraiment, de leur côté, que l'information était, à jour, puis que les protocoles d'échange d'informations, autant en lien avec COCA, avec les deux secteurs, qui allaient bien. Le coordonnateur aussi travaille, il avait fait des suivis aussi au niveau de la municipalité, puis il est toujours là également pour apporter tout ce qui peut être conseil, mais vraiment en lien avec tout ce qui est protocole de déploiement puis échange d'informations, que c'est vraiment directement au niveau des différents services incendies qui avaient la responsabilité de s'assurer que transmettait la bonne information autant à COCA qu'entre les deux services.
Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir pour les comités? Moi, j'ai eu une réunion de la TREMCA la semaine dernière. C'est plus des problématiques pour l'ensemble de Chaudière-Appalaches. Je ne veux pas vous en parler dans le sens que si ça ne nous touche pas de très près. Là. Les deux autres, ben, c'est des réunions que j'ai concernant la COVID. Vous avez dit que tous les mardis, on en a une avec la santé publique et tous ces gens-là. Mais on en a une également aussi. On ne l'a pas eu cette semaine exceptionnellement, mais tous les mercredis, on en a une localement avec la commission scolaire, le cégep, la ville de Thetford, la SADC, le CLD et d'autres intervenants, là, le CIS, etc. Mais ça, c'est local, pour savoir qu'est-ce qui se passe chez nous, dans les municipalités, qu'est-ce qui se passe au niveau communautaire, puis au niveau économique, la Chambre de commerce est là, puis tout ça. Fait qu'on a des réunions régulièrement pour savoir exactement ce qui se passe. Et si jamais il y avait quelque chose dont il faudrait vous avertir immédiatement, soyez sûr qu'on le ferait à ce moment-là. Mais on a toujours la situation de très, très près. Et on voit aussi qu'il y a une belle collaboration entre les gens. Par exemple, vous donner l'exemple, la commission scolaire a fait appel au cégep pour qu'il y ait des étudiants qui viennent aider les élèves en difficulté au niveau du secondaire. Et ces élèves-là du cégep sont rémunérés pour le faire. C'est un plan d'appui qui vient du ministère de l'Éducation. C'est des choses comme ça là, dont on traite. Alors, ça fait le tour des comités MRC. Ça va? Gestion financière et administrative, liste des minéraux critiques, magnésium.
En fait, c'est pour adopter une résolution d'appui en lien avec certaines démarches qui ont été faites, initiées également localement. C'est que au niveau du ministère, pas du ministère, mais du gouvernement fédéral, ils ont produit une liste préliminaire des 24 minéraux critiques et le magnésium n'en faisait pas partie. Donc, ce serait vraiment pour adopter une résolution en lien avec ça pour que la liste la provisoire comme au niveau des minéraux critiques canadiens pour que intégrer le magnésium à cette liste provisoire.
Merci. Proposé par François Barry. Merci. Dépôt, rapport annuel, logement ici, ICI.
Exact. C'est en lien avec le logement que la MRC subventionne auprès de l'organisme Intégration communautaire des immigrants. On a reçu le rapport annuel qui aura été déposé, qui fait mention un peu des certains événements au niveau de la COVID qui a eu un impact au niveau de l'achalandage, mais qui a quand même eu un besoin qui a été démontré puis que le besoin est toujours pertinent malgré le contexte.
Merci. Jean-François Hamel propose le dépôt. Demande d'appui inter-CDC transport collectif.
Et on a reçu en fait une demande d'appui de l'inter-CDC. L'inter-CDC qui couvre l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches. C'est vraiment dans le cadre d'un éventuel dépôt au niveau du PAGIEP dans l'enveloppe régionale pour déposer un projet pour faire un inventaire des différentes structures de transport collectif à l'ensemble de Chaudière-Appalaches pour vraiment avoir un portrait dans le but éventuellement de voir c'est quoi les modèles qui sont intéressants, puis qu'est-ce qu'il y a sur le territoire pour voir après ça, autant au niveau des différents maillages qui pourraient être faits, que d'avoir au moins des modèles qui pourraient servir d'exemple pour d'éventuels projets futurs.
Francine Drouin propose. Louis, ça fait deux fois que je suis déconnecté de façon automatique. Là. Alors, si à un moment donné, tu vois que je n'interviens pas, c'est parce que je ne suis plus là. 7.04, embauche de coordonnateur aux communications.
Donc, attendu que le poste de coordonnateur aux communications est affiché jusqu'au 15 janvier 2021, attendu que le comité de sélection effectue des entrevues le 27 janvier 2021, attendu que le comité de sélection ait mis sa recommandation au comité exécutif le 3 février dernier. En conséquence, il est proposé que Mme Cassie Lachance soit embauchée à titre de coordonnatrice aux communications pour un poste régulier à temps plein, conformément à la convention collective en vigueur à la MRC des Appalaches, et qu'elle soit rémunérée selon la catégorie 3, échelon 5 de la structure salariale de la MRC pour une entrée en fonction le 15 février 2021.
Denis Fortier. Merci. Embauche directeur des finances.
Il y avait M. Hamel, je pense qu'il y avait un élément.
Juste peut-être, tant qu'à pouvoir corriger la coquille tout de suite. Moi, sur ma version, deuxième attendu, il y a une petite coquille là, donc peut-être le corriger.
Oui, merci M. Hamel.
Embauche directeur des finances au remplacement.
Oui, attendu que le poste de coordonnateur aux communications est affiché jusqu'au 3 février 2021, attendu que le comité de sélection a effectué les entrevues le 9 février dernier. En conséquence, il est proposé que M. Jean Roussin soit embauché à titre de directeur des finances secrétaire trésorier adjoint pour un poste temporaire à temps plein à la MRC des Appalaches pour la durée du congé sans solde de Mme Caroline Gagné et que ce dernier soit autorisé à signer pour et au nom de la MRC des Appalaches tout chèque, document bancaire ou tout dossier d'ordre administratif nécessaire au bon fonctionnement de la MRC. Et il y a une petite coquille, mais c'est pour une entrée en fonction qui va être avant le 1er mars.
J'ai été déconnecté, fait que là, je ne sais plus à quelle place qu'on en est.
Je vais choisir Daniel Talbot pour la proposition.
Oui, celui qui est exubérant, là. Parfait. État de, est-ce que c'est là qu'on est rendu, état de situation COVID-19?
Oui, okay. Je vais vous laisser
alors. Oui, c'est à la suite d'une demande de M. Hamel, Jean-François Hamel, sur un retour en présence physique. Alors, compte tenu des informations qu'on a eues récemment cette semaine concernant la situation dans notre MRC, les Appalaches, c'est sûr qu'on est en baisse depuis 3 semaines, même 4 semaines, mais là, on a eu une légère montée. On a l'apparition également des variants qui sont arrivés. Puis, on sait qu'au Québec, on a très peu dépisté les variants. À date, on nous annonce juste qu'il y en a 11, mais il y en a peut-être plus. On ne le sait pas, en fait. L'autre élément aussi, le retard qu'on a dans la vaccination, qui est important. Moderna vient d'annoncer après Pfizer qu'ils vont réduire leur quantité de 33 %. Alors, on est dans une situation, moi, je dirais, très fragile encore. Ça fait que je pense qu'on devrait attendre pour rediscuter d'une éventuelle présence physique ensemble là, pour se rencontrer. À notre avis, ce n'est pas le moment. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, qu'on va continuer nos réunions en Zoom, même si, évidemment, les connexions sont absolument épouvantables, ce qui nous permet de penser que Internet haute vitesse serait le bienvenu. Alors, je vois beaucoup de mains levées. Alors, pour moi, on va remettre ça plus tard, une présence physique entre nous. Merci. Formation du comité de sélection, secrétaire réceptionniste.
En fait, c'était un lien pour combler le poste qui sera à pourvoir et qui est déjà actuellement en affichage pour le poste de secrétaire réceptionniste. Fait que ça me prendrait, en fait, s'il y avait des volontaires pour poursuivre le comité de sélection.
Je pense que Pascal puis Jacques.
Excellent. Et M. Denis Fortier qui
propose. Merci. Évidemment, je suis d'office. Oui, puis je suis d'office là-dessus, oui. Bien sûr.
Non.
Suivi et accès. Attendez au mois de novembre. Suivi et accès Entreprise Québec. Je vais laisser la parole à M. Brousseau, s'il vous plaît.
Donc, concernant Accès Entreprise Québec, il y a présentement un programme qui se met en place pour s'assurer que partout au Québec, il y a un minimum de 2 ressources en développement économique qui s'est accompagné d'un montant d'argent. Pour nous, c'est quelque chose qui est important parce qu'on a subi des coupes très importantes au niveau de la Société de développement économique. On parle d'une coupe qui représente 400 000 $ par année. On a choisi, et ce fut la bonne décision, de maintenir des ressources en développement économique chez nous au prix de faire des déficits de façon annuelle parce qu'on avait quand même des fonds de côté. Donc, les déficits se poursuivent. On a maintenu nos ressources en développement économique. On parle de 4 ressources qui sont là, donc 2 fois plus que ce que le gouvernement demande. Présentement, il semble que ce ne soit pas admissible au programme. Il faudrait absolument créer 2 nouvelles ressources alors qu'on n'a pas de besoin de créer 2 nouvelles ressources. Alors, l'intention, c'est de poursuivre des démarches pour faire en sorte qu'on puisse rendre admissibles les ressources qui sont déjà en place pour le développement économique sans avoir à créer 2 ressources supplémentaires, ce qui pénalise en fait une région comme la nôtre qui avait choisi de maintenir ses ressources en développement économique.
Alors, là, c'est de l'information qu'on vous donne. Le processus, on doit signer une entente avec le gouvernement d'ici le 13 mars. Alors, à la prochaine réunion du Conseil des maires, on va revenir là-dessus pour une résolution en bonne et due forme. Et le Conseil d'administration de la SDE va se pencher sur le problème et va nous faire une recommandation. Ça va? Aménagement du territoire, émission des certificats de conformité, certificat de conformité de Thetford Mines, règlement 783, modifiant le plan d'urbanisme Ville de Thetford. Madame Boucher?
En fait, c'est une modification des plans d'urbanisme, du plan d'urbanisme de la Ville de Thetford pour intégrer le presbytère de Black Lake sur la rue des Éries dans l'affectation commerciale de quartier. Je confirme, c'est conforme au schéma d'aménagement, aux orientations du schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Et ça prend quelqu'un. François.
Merci, Daniel Talbot. Règlement 784, modifiant le règlement de zonage, Ville de Thetford.
Donc, c'est pour le même endroit, c'est juste que là, maintenant, c'est rendu au niveau du règlement de zonage qu'on ajoute le presbytère dans la zone commerciale. Encore là, c'est conforme aux orientations du schéma d'aménagement ainsi qu'aux documents complémentaires.
Merci, François Barry. Résolution 2021-57-PM, PPC-MOI, Ville de Thetford.
Oui, dans ce cas-ci, c'est une résolution, donc c'est un projet particulier. Je vais juste vous dire les bons termes. Là. C'est un projet particulier pour un bâtiment où ils veulent permettre un usage un peu, si on veut, conditionnel. Donc, il y a des conditions qui sont appliquées à avec cette résolution-là et ça doit être conforme au schéma d'aménagement, ce que je confirme, donc conforme aux orientations du schéma ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
Merci, Jacinthe Patrick. Certificat de conformité Ville de Disraeli, règlement 674, modifiant le règlement de zonage de la Ville de Disraeli.
Oui, dans ce cas-ci, notamment, la Ville de Disraeli a procédé à des donnants-donnants de zones d'aménagement prioritaire et de zones d'aménagement de réserve. Donc, comme les superficies demeurent exactement les mêmes, on permet une modification au niveau des règlements d'urbanisme de la municipalité seulement et c'est donc conforme au schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Jacinthe Patry, merci. Règlement 674, modifiant le règlement de zonage, Ville de Disraeli. Non, on vient de le faire. Certificat de conformité d'Adstock, règlement 263-20, modifiant le règlement de zonage 6907, municipalité d'Adstock.
Dans ce cas-ci, la municipalité a procédé à des modifications en précisant certaines définitions de son règlement de zonage et en modifiant le coefficient d'emprise au sol pour les zones de villégiature en fonction de la superficie des terrains. Et c'est conforme aux orientations du schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.
Steven.
Merci, Jean Clessard. Oui, il y avait une question? Non, ça va? Modification schéma d'aménagement revisé, projet de loi 203, projet de règlement 203, adoption.
Oui, en fait, le projet de modification du schéma d'aménagement consiste à établir une mécanique pour faire des modifications des zones à l'intérieur de l'affectation pôle récréotouristique du Mont Atitoc. Actuellement, le schéma est ainsi inscrit que si la municipalité, parce que le projet a été modifié au cours des ans, doit faire une demande de modification au schéma d'aménagement, même si au niveau des superficies, avant, après, elles demeurent exactement les mêmes. Donc, on vient établir au schéma d'aménagement une mécanique pour permettre à la municipalité de pouvoir faire des modifications au niveau de sa réglementation locale sans avoir à modifier le schéma d'aménagement. Et il n'y aura pas d'obligation pour la municipalité de modifier ses règlements puisqu'on vient établir une mécanique dans le schéma d'aménagement. Je vais y aller avec Francine.
Je serais peut-être poursuivre, Cynthia, au niveau des autres points suivants.
Oui, donc toujours dans le projet de règlement 203, il y a la formation de la commission. C'est sûr qu'actuellement, comme on est en consultation écrite, la commission n'a pas à se rencontrer. Par contre, on fait, puisque effectivement, il y a une consultation écrite, on peut avoir des commentaires qui seraient reçus de la part des citoyens. Donc, la commission est, à mon sens, importante. Si jamais on avait des commentaires à cet égard, bien, au moins, on pourrait rencontrer la commission. Donc, habituellement, comme c'est... Je propose Marc-Alexandre Brousseau, M. Gaston Nadeau et M. Guirois pour former en compagnie de M. Paul Vachon la commission qui va recevoir les commentaires. Alors, Isabelle. Ensuite de ça, comme on fait une modification au schéma d'aménagement, on a l'habitude de demander un avis préliminaire au ministre. Donc, il faut demander par résolution d'aller chercher un avis préliminaire du ministre. Donc, c'est ce que la résolution demande. Ministre des Affaires municipales, Jean-François Hamel. Ensuite de ça, on peut demander également de modifier le délai donné aux municipalités. Au lieu de leur laisser 45 jours pour donner son avis sur le projet de règlement, on peut le réduire à 20 jours par une résolution. Donc, c'est ce que la résolution vous propose au point 8.2.1.4. Philippe. Ensuite de ça, comme on adopte un projet de règlement qui aura éventuellement un règlement, on donne un avis de motion à l'effet qu'un règlement portant le numéro 203 sera adopté à une séance ultérieure pour ajouter des dispositions relatives à la redéfinition des limites des zones à l'intérieur de l'affectation pôle récréotouristique du Mont Atitoc dans la municipalité d'Atitoc.
Il y avait Jessica Lacombe.
Et finalement, vous avez le projet, là, je l'ai ajouté un peu plus tôt, mais il y a le projet d'avis public en vue de l'Assemblée de consultation écrite que vous retrouverez au point 9216.
Sinon, il y avait le point 8.3, l'amendement à la demande d'exclusion de la zone agricole demandée par la municipalité de Saint-Fortunat.
Oui, en fait, on a déjà adopté une résolution d'appui à cette demande d'exclusion-là. La municipalité de Saint-Fortunat souhaite ajouter finalement pour son périmètre urbain un réseau d'égouts et avait fait une première demande d'exclusion de la zone agricole comme c'est un usage institutionnel. Et ils ont reçu une autorisation, mais un refus pour une partie, notamment le chemin d'accès vers les étangs aérés. Et est revenu à la charge en demandant une autorisation pour le même chemin ben, en fait, exclusion. Mais par contre, en revérifiant les plans et avec la transposition de la zone agricole ainsi que la rénovation cadastrale, ceux qui s'occupent de ce dossier-là, la firme qui est en charge de ce dossier-là s'est aperçue que finalement, il y avait des lots supplémentaires qui se retrouvent finalement en zone agricole. Donc, on vient modifier pour rajouter ces numéros de lots-là à la demande initiale, ben, en fait, la deuxième demande qui allait chercher l'autorisation pour le chemin d'accès vers les étangs aérés. Donc, j'ai Jacinthe.
Donc, le point 9, cours d'eau et environnement. Point 9, point...
Bon, je suis revenu.
Ah, super! Point 9, point 1, monsieur. Combien de temps?
Donc, au point 9.1, on suivi PRM.
Suivi PRMHH.
Oui, donc, juste pour vous faire un suivi, là, j'avais annoncé dans les derniers conseils des maires que je faisais des rencontres, que je souhaitais faire des rencontres des municipalités pour parler avec eux de plans régionaux des milieux humides et hydriques et en même temps aller chercher leur, des informations pertinentes et intéressantes pour la suite de cette élaboration-là. Donc, à ce jour, j'ai 12 municipalités de rencontrer. J'en ai 4 qui sont planifiées dans le mois de février et mars. Et il va me rester 3 municipalités à recontacter afin de pouvoir rencontrer les conseils municipaux, les directions générales ainsi que les inspecteurs en bâtiment. Autrement, par rapport au PRMHH, donc vous savez, c'est un projet régional Chaudière-Appalaches. Et le 10 mars prochain, après le conseil des maires, donc en demande de rencontre, on a les chargés de projet qui vont venir faire la présentation du portrait du plan régional des milieux humides et hydriques. Ça s'en vient. Sinon, entre juin et septembre, il y aura des ateliers avec les élus et les professionnels, dont les aménagistes, pour les engagements de conservation, toujours dans le cadre de l'élaboration des PRMHH. Alors, c'est un point d'information.
Si tu me permets, Cynthia, il y a également demain. C'est pas tout à fait, ben, il y a un lien direct là. Il y a une rencontre qui est faite avec les municipalités, puis la députée. En fait, c'est une demande qu'on a eue de Kevin Mathieu ils veulent nous entendre concernant les milieux humides et les. Moi, j'appelle ça les amendes, là, mais je me souviens plus comment ils appellent ça. Là, les compensations, mon œil. Mais enfin, il y a une rencontre demain, je pense que tout le. Je ne sais pas si tout le monde est là, mais tout le monde avait été invité demain à 10h par Zoom.
OK.
S'il y en a qui n'ont pas, en tout cas, on pourra faire le suivi. S'il y en a qui n'ont pas eu le retour d'information ou certains éléments, on pourra transmettre juste à me contacter. Je pense que ça va être la façon la plus simple de faire le lien après ça avec Kevin Mathieu pour s'assurer que vous soyez invité à la rencontre.
C'est ça, parce que moi, je crois que je ne l'ai pas reçu. Fait que, en tout cas, faudrait que je refouillerais, là, si j'ai ça quelque part, mais je viens de vérifier, je n'ai pas ça.
Excellent.
Merci, oui. Je te l'enverrai tout à l'heure, Denis, après la réunion.
Je ne l'ai pas reçu, moi non plus.
Moi non plus.
Exact. Fait que tous ceux qui avaient signifié...
À ce moment-là, Louis va s'occuper de la...
Oui, fait que tous ceux qui avaient signifié leur. On vous avait transmis un courriel justement pour toutes les personnes pour qu'ils signifient leur intérêt à participer au niveau de cette consultation-là. Fait que si vous n'avez pas eu un retour de la part de Kevin, juste à me le signifier pour que j'aide l'ensemble des noms de ceux qui ne l'avaient pas reçu pour que je sois en mesure rapidement demain matin. Je ferai le suivi avec Kevin Mathieu. Juste à savoir, est-ce qu'il y a eu plus qu'une rencontre des fois de planifier? Fait que je serai en mesure de transmettre l'information rapidement. Là.
Parce que ce sera à quelle heure demain?
C'est à 10h, je pense, M. Vachon vous dit.
À 10h, oui, c'est ce que j'ai, moi, dans mon... Oui.
Merci.
Fait que, je vous reviens avec ça. Êtes-vous avec nous, M. Vachon?
Non. Oui. Oui, excusez-moi. Suivi PGM.
Oui,
pas toujours là. Hein?
Comme Mme Patrie l'a dit tantôt, il y a eu un comité PGMR dans lequel on a présenté les actions qui ont été entreprises en 2020 et le suivi de la mise en œuvre du PGMR 2016-2020 pour l'année 2021. Donc, juste pour faire un court résumé, les actions entreprises en 2020, on parle du nouveau service de récupération de la tubulure ainsi que de l'adoption du plan d'action en environnement. Pour ce qui est des actions à entreprendre en 2021, donc on va travailler sur l'implantation du service de collecte et de traitement des matières organiques auprès des municipalités qui n'en ont pas encore, qui n'ont pas encore ce service-là ou qui l'ont partiellement. Donc, on aura à travailler à cet égard-là. On est toujours à la recherche de l'information par rapport aux redevances auxquelles les municipalités vous avez droit et qui vont changer dans les prochaines années, mais on n'a pas de date encore. Donc, à partir de quelle date vous devrez avoir instauré une troisième voie ou un équivalent et auquel vous ne perdrez pas vos redevances. Donc, c'est toujours, on cherche toujours l'information. Ensuite de ça, on veut optimiser les programmes municipaux de gestion des résidus verts. On veut aussi beaucoup aller chercher l'information. Favoriser l'adoption d'une réglementation qui va encadrer les collectes de toutes les municipalités. On va aller chercher cette information-là encore une fois. Et ensuite, maximiser l'accessibilité aux éco-centres. Donc, on va aller faire une recherche. Qu'est-ce qu'il y a dans les éco-centres? Quelles ententes elles ont avec chacune, avec les municipalités? Au niveau du réemploi, on va surtout faire une liste des entreprises qui œuvrent en réemploi. Et y intégrer en même temps les entreprises qui font de la location, notamment d'outils. On va également valider l'état d'avancement de la municipalisation des bouts de fosses septiques dans chacune des municipalités. Au niveau de la MRC, ce qu'on souhaite faire, c'est développer et mettre en place les actions du guide des bonnes pratiques au bureau. Donc, on va devenir bon, puis ensuite, on va pouvoir aller vous aider à devenir bon, vous autres aussi, en récupération notamment. Et à l'égard des ICI, là, on va aller chercher, on a préparé, en fait, vous aviez déjà adopté un appui au projet d'économie circulaire avec différentes MRC de Chaudière-Appalaches. Donc, ça sera un suivi à cet effet-là. L'autre élément, le dernier élément, c'est concernant la révision du PGMR. Donc, le processus est enclenché. On a eu une première rencontre hier matin avec Chamard Stratégie Environnement. Et c'est Marie-Claude Caouette qui va travailler à aller chercher les informations. Elle a d'ailleurs commencé aujourd'hui à aller cueillir l'information auprès des municipalités. Donc, vous serez, vos directions générales seront interpellées dans ce dossier-là. On a vraiment beaucoup d'informations à aller chercher. C'est important d'avoir ces informations-là pour être capable de cheminer rapidement dans la révision du schéma, pas du schéma d'aménagement, mais plutôt du PGMR. Et dans le but éventuellement d'adopter un projet de PGMR, on a jusqu'au 13 octobre 2021, mais avec le comité de PGMR, on s'est entendu pour raccourcir cette date-là, ce délai-là, au 8 septembre 2021, considérant qu'en octobre, vous serez en élection, en période électorale. Donc, voilà.
Juste un petit suivi, Cynthia. Tu l'as mentionné au niveau du projet d'économie circulaire. Là, je pense qu'elle a qu'elle avoir un suivi. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai manqué, mais en lien avec, justement, on avait eu la confirmation de l'obtention de la subvention au niveau de Recyc Québec, au niveau de l'APTEC pour ce projet-là. L'APTEC, mais également aussi, il y avait une autre portion au niveau de Desjardins. Fait que l'ensemble du financement est complété, en fait, pour la réalisation du projet sur une période de 2 ans pour vraiment avoir des, un peu des on pourrait les appeler des conseillers en économie circulaire. Dans le projet, on se rappelle, on était au niveau des 3 MRC de la Beauce, il y avait nous et il y avait la Binière, fait qu'on était 5 MRC à participer. Fait que prochainement, il va y avoir justement l'affichage de 2 postes pour aller trouver des ressources, soit 2 conseillers pour vraiment débuter le projet puis le mettre en œuvre rapidement puis faire les liens avec des ressources qui vont être mises en étroite collaboration avec les services de développement économique pour vraiment faire aussi un maillage avec tout le lien avec, dans notre cas, avec la SDE, avec les conseillers qui sont déjà en place pour vraiment ajouter à quelque part une opportunité puis un outil de plus pour les entreprises de la région.
Oui,
Ça va? Alors, Mme Boucher, vous voulez continuer, s'il vous plaît?
Absolument. Donc, on a reçu une demande d'appui, en fait, une résolution à adopter de la part de la Fédération québécoise des municipalités concernant justement la révision des PGMR. Actuellement, on doit adopter un projet à la date du 5e anniversaire du PGMR, tandis que le PGMR, lui, est en vigueur pour 7 ans. Donc, il y a un délai de 2 ans où on aura adopté un projet de PGMR, mais le PGMR précédent va être encore valide 2 ans. Fait que ça porte un peu à confusion. En plus de ça, bon, cette année, on le sait, il y a les élections. Actuellement, au Québec, il y a 48 MRC qui doivent adopter un projet de PGMR qui vont être rendus à leur 5e anniversaire d'ici l'automne. Donc, la FQM, elle, ce qu'elle propose, c'est qu'au lieu que l'adoption du projet de PGMR soit à 5 ans, plutôt le reporter à 7 ans, au comité d'administration, la semaine dernière, on s'est entendu pour plutôt demander que le projet de PGMR soit adopté à la date de du 6e anniversaire. Ça laisse donc un an pour revoir ou en tout cas s'assurer que le PGMR est conforme à la politique québécoise de gestion des matières résiduelles et qu'à la date du 7e anniversaire, ce soit le nouveau PGMR qui rentre en vigueur effectivement. Maintenant, on a eu des nouvelles informations hier de la FQM et à cet effet-là, le ministère de l'Environnement a précisé qu'il va apporter certaines modifications législatives. En fait, à la date du 5e anniversaire, ce qu'ils vont proposer, c'est que les MRC adoptent une résolution comme quoi ils entament le processus de révision du PGMR et on aura 2 ans pour compléter la révision du PGMR, incluant les consultations publiques, et finalement l'adopter pour qu'à la date du 7e anniversaire, on soit prêt et qu'on ait un nouveau PGMR en vigueur. Donc, là, on a comme 2 options. La FQM propose quand même qu'on adopte la résolution suivant ce qu'eux proposaient. Mais comme nous, au comité administratif, on sait le comité a statué qu'il préférait 6 ans. Là, je vous laisse prendre la décision.
Ben, c'est sûr que l'information qu'on a avec la communication qu'on a reçue hier, comme tu dis, je pense que c'est un autre élément. Puis c'est déjà en discussion, puis il y avait déjà un cheminement. En tout cas, de ce qu'on a comme information, c'est qu'il y a déjà une réflexion au niveau législatif pour la modification. La préoccupation, puis corrigez-moi au niveau du comité administratif, quand on a eu la discussion, c'est qu'on considérait que c'était quand même important qu'il y ait un certain processus avant la 7e année pour débuter en quelque sorte la révision et non pas qu'on se retrouve dans une situation un peu comme on peut vivre présentement avec le schéma de sécurité incendie, qu'il n'y a pas de processus qui s'enclenche de façon un peu automatique avant l'échéance du plan d'action en vigueur. Ça fait qu'on considérait que c'est quand même important qu'il y ait un mécanisme qui s'enclenche avant. Est-ce que c'était nécessaire que ça se fasse avec une adoption 2 ans avant l'échéance? On se questionnait à savoir que peut-être qu'une année pour se laisser une année de révision est important. Par contre, au moins, la proposition qui est faite au niveau du gouvernement actuellement dans leurs orientations, à la 5e année, au moins que le confirmer par résolution qu'on débute le processus de révision. À mon avis, je pense que c'est une alternative qui est intéressante pour au moins enclencher la révision, qui laissera 2 ans pour lancer le processus de révision, puis avoir le temps nécessaire aussi pour aller chercher les validations auprès du ministère pour s'assurer que l'ensemble du plan sera conforme au bout de la 7e année. Fait qu'on va quand même enclencher un certain processus qui était la préoccupation principale du CA.
Bien là, Louis, moi, je ne fais plus du tout, là. 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, finalement, moi, je ne sais plus là, à quelle place qu'on en est, là.
Ouais, si vous voulez avoir mon avis, je pense que la proposition avec l'orientation au niveau du gouvernement d'aller avec une proposition d'avoir au moins une résolution à la 5e année pour débuter le processus, à mon avis, est intéressant puis répond à quelque part aux attentes qu'on avait dans les discussions qu'on avait eues à ce niveau-là. Pour vraiment avoir une entrée en vigueur officiellement à la 7e année du PGMR. Là.
Je suis d'accord, Louis.
OK. OK, fait proposer. OK. Francine, t'as proposé, oui? OK. Parfait. Madame Boucher?
Donc, Presque dernier point. Donc, on a une reddition de compte à faire sur l'application de réglementation de la zone d'intervention spéciale. Donc, pour l'année 2020, donc suivant les inondations sévères de 2017-2019, le gouvernement du Québec avait décrété via la Gazette officielle du Québec une zone d'intervention spéciale sur l'ensemble des plaines inondables, notamment identifiées au schéma d'aménagement. Et que suivant ce décret-là, les MRC doivent, avant le 1er mars, déposer un rapport, une reddition de compte sur les permis qui ont été émis dans les zones inondables identifiées au schéma d'aménagement, mais aussi les constats d'infraction qui ont été donnés par les municipalités concernant justement ces zones inondables-là. Donc, on a commencé à faire le recensement de ces permis émis, des contraventions émises. Malheureusement, il me manque quelques municipalités où je n'ai pas encore reçu les informations. Donc, je ne peux pas vous présenter le portrait global ce soir, mais j'ai plusieurs municipalités où il n'y a pas eu de permis ni de contravention émis dans leur zone inondable. J'ai quand même quelques municipalités là, qui ont émis des permis, mais c'est surtout des permis de rénovation ou de stabilisation des berges. Sinon, j'ai des municipalités qui ont également envoyé des constats d'infraction, notamment pour des roulottes ou des travaux faits en rive illégalement. Donc, ce que je vous propose, c'est quand même d'adopter une résolution pour m'autoriser à transmettre le rapport d'administration sur les permis délivrés et les contraventions décrétées à la réglementation de la zone d'intervention spéciale avant le 1er mars à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Mais le rapport va quand même vous être transmis lors du conseil de la MRC du 10 mars prochain.
Pour adoption.
OK. Proposition.
Il y avait M. Chabot.
François Barry, merci. OK. Fonds d'amélioration de la qualité de l'eau.
Oui, donc dans le plan d'action en environnement, on avait statué qu'on allait revoir le programme pour l'amélioration des cours d'eau. Et on a retravaillé le programme en fonction des budgets qu'on avait. Et dans le fond, on voulait vous le présenter ce soir pour aller chercher votre accord finalement quand on va partir ouvrir ce fonds-là. Donc, on l'appelle le Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau. Dans lequel il y a 5 objectifs spécifiques. Donc, l'objectif général, c'est vraiment d'améliorer la qualité de l'eau et de l'environnement, mais surtout de la qualité de l'eau. Les objectifs spécifiques, c'est l'amélioration de la qualité générale des cours d'eau du territoire, réduire les apports en éléments nutritifs vers les cours d'eau, réduire les impacts négatifs dus à l'apport des sédiments dans les cours d'eau, assurer une meilleure accessibilité aux cours d'eau sur la population ou pour la population et réduire la présence d'espèces exotiques envahissantes. Les détails techniques se rattachent sensiblement au fonds région ruralité. Maintenant, au niveau de l'aide financière, là, c'est là qu'on a un choix à faire. Est-ce qu'on va retenir un 5 000 $ par projet ou 8 000 $ par projet? Donc, ça ferait soit 8 projets à 5 000 $ ou 5 projets à 8 000 $ Et est-ce qu'on autorise, l'année passée, c'était 3 000 $ puis 50 % des frais admissibles. Et là, est-ce qu'on demeure à 50 % ou est-ce qu'on augmente à 70 %? Donc, on a comme deux choix à faire là, ce soir, là, le montant puis le pourcentage des dépenses admissibles.
Non, en fait, c'est ça. Pour le fonds, on se rappelle, on l'avait bonifié. On passait d'un fonds initialement, on se réservait un 15 000 $ On avait 5 projets qu'on contribuait dans l'ancien fonds à 5 000 $ à 3 000 $ par projet pour 5 projets. Puis c'est une contribution maximale de 50 % du total du projet. En fait, là, la réflexion, je pense qu'il va être important. Je sais que Cynthia a travaillé un document avec une proposition, à savoir, on l'avait bonifié le fonds, on avait maintenant un montant disponible d'un fonds de 40 000 $ qu'on s'était réservé justement pour toucher au niveau de ces problématiques-là. Donc, la question était un peu d'avoir votre avis au niveau de est-ce qu'on souhaite. Dans le passé, on appuyait 5 projets. Est-ce qu'on veut encore appuyer seulement 5 projets, mais avec une plus grosse contribution? ou on continue d'avoir peut-être une dynamique d'appuyer plusieurs, de se donner la marge de manœuvre, d'appuyer plus de projets, que ce soit à raison, justement, comme Cynthia le disait, à raison de 5 000 ou que ça peut être aussi un 3 500 ou juste de voir c'est quoi un peu votre avis, puis on voulait avoir peut-être une discussion avec vous dans un premier temps sur les hauteurs de contribution, à savoir, on appuie-tu plus de projets ou des plus gros projets? Et aussi au niveau de la contribution, comme Cynthia a mentionné, on était dans le passé, dans ce fonds-là, au niveau du 50 % de contribution, ce qui demandait quand même une contribution du milieu. Donc, selon le choix qu'on va avoir d'augmenter la part, dans le fond, si on le monte, par exemple, à 8 000 $ par projet, mais est-ce qu'on continue de demander quand même une contribution de 50 % du milieu ou on change le pourcentage de contribution maximale, exemple, ou un 8 000, mais que ça pourrait être 70 % du projet. Fait que c'est des éléments qu'on voulait peut-être faire un petit tour de table pour entendre, avoir votre avis là-dessus pour qu'on puisse continuer de travailler le projet là, de la nouvelle politique.
Alors, allez-y.
Monsieur Hamel, Jacinthe.
Il y avait combien de projets bonhomme à l'an qui devaient être déposés pour avoir un ordre de grandeur pour commencer à réfléchir?
Bien, souvent, on parlait de 5 à 6 projets. Cynthia, c'est rare qu'on en refusait nécessairement. Là. Souvent, il y avait peut-être un 2 projets. Souvent, il y avait comme exemple un projet qui était non admissible au final dans le cours d'eau, puis peut-être un projet qui était, je dirais, plus borderline au niveau du comité de sélection pour avoir le fonds. Mais tu sais, on n'avait pas 10 projets pour en choisir 5. Là. C'est souvent un ou deux de plus qui étaient disponibles.
Ouais.
Mais c'est sûr que dans l'ancien, puis ça, c'est une notion qui est importante, dans l'ancien fonds, on ne touchait pas nécessairement au niveau des espèces exotiques envahissantes en lien avec la qualité des cours d'eau. Donc là, c'est sûr qu'en ouvrant la porte, en disant qu'on veut intégrer une portion justement espèces exotiques envahissantes, bien, il faut, oui, peut-être s'attendre aussi d'avoir plus de projets en ouvrant quelque part à plus de possibilités aussi, là, qui pourra jouer dans balance. Jacinthe?
C'était la même question.
Monsieur Pascal?
Oui, bien, je suis un peu... C'est sûr qu'en ouvrant la porte à d'autres projets, là, ça peut peut-être être limité par rapport au budget, mais tu sais, on a une politique des cours d'eau, une politique environnement, un plan d'action environnement qu'on a adopté. Là. Je pense qu'il faudrait un peu aussi peut-être référer à y référer peut-être pour bonifier des projets qui s'inscriraient dans ce plan d'action-là. Par exemple, s'il y a des projets qui sont des pistes d'action environnementales qu'on a adoptées, peut-être qu'il peut avoir une bonification au niveau de son côté structurant. Fait que je lance ça comme piste. Ben, c'est sûr qu'il y a des projets qui. Puis aussi, c'est la hauteur de ce qui est investi dans la contrepartie. Parce que si tu as un projet de 5 000 puis tu donnes 3 000, c'est le minimum dans le projet, mais puis tu donnes un 3 000 puis le projet en vaut 30 000, ben, quelque part, je pense que ça pourrait être bonifié parce que c'est l'envergure des travaux n'est pas la même. Je lance des pistes, là, mais tu sais, ça peut être des éléments comme ça. Mais c'est sûr que si on a 20 projets parce qu'on a ouvert puis que à la fin, il nous manque 10 000 pour combler les projets, c'est pas mieux non plus. Là. Mais moi, je trouve qu'il y a ça, cette pondération-là. Là. Si les travaux sont quand même assez importants puis s'inscrivent dans la politique des cours d'eau, la politique du plan environnemental, là, peut-être qu'il devrait y avoir une bonification à quelque part, là, tu sais, que plutôt que. Des idées que je lance, là, mais je pense que ça peut être important peut-être d'en tenir compte là, dans l'analyse et de bonifier. Parce que c'est sûr que les montants qu'on donnait, à mon sens, étaient très peu par rapport si je regarde les différents projets des années passées. Puis heureusement, on a augmenté le budget. Mais là, on fait quoi avec l'augmentation du budget? En ouvrant le nombre de demandes, ben, je comprends la réserve, mais moi, je pense qu'il faudrait quand même bonifier les montants s'il y a des projets structurants, puis c'est des projets qui coûtent au-dessus de 10 à 15 ou 25 000, puis que c'est investi par le milieu, par les associations riveraines ou les municipalités. Moi, c'est ma réflexion.
D'autres interventions? Ça va? Louis?
Oui, ben à ce niveau-là, gênez-vous pas. On vous lance la question comme ça. Si jamais vous avez des réflexions, certains éléments que vous souhaitez apporter, communiquez directement avec Cynthia, des fois, si vous avez des propositions directement, fait qu'on sera en mesure de les prendre, puis on sera en mesure de faire un suivi aussi au niveau du prochain, tant au niveau du comité environnement que du prochain conseil des maires pour voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Oui, M. Hamel?
Bien, une proposition, si on est pour reporter au prochain conseil des maires, est-ce qu'on ne pourrait pas se saisir de cette question-là au niveau du comité consultatif en environnement puis ramener ça devant le conseil? Peut-être que c'est une façon de faire, puisqu'on a justement pour traiter la politique et tout ça là, pour le règlement sur la libre circulation des eaux. Peut-être qu'on pourrait s'y attarder en comité restreint et vous ramener ça au mois de mars. C'est une proposition que je fais aux membres. Là.
Très bonne idée. Et il pourrait nous faire une recommandation.
Est-ce qu'il y avait une autre rencontre de prévu à Cynthia actuellement au niveau du...
Le 19 février.
Excellent. Le timing est parfait à ce niveau-là pour amener le dossier.
Oui, on a une réunion bientôt. Moi, je ne vous vois pas, là. Tous les écrans sont noirs. Alors, si vous levez la main d'un fois, je ne peux pas vous voir. Là. C'est pour ça que je prends juste les mains qui sont affichées. Admissibilité des organismes de la ville de Thetford au fonds culturel.
En fait, c'est avec le nouveau fonds culturel qui avait été adopté en janvier dernier au niveau du fonds culturel. C'était vu qu'il y avait une bonification dans la nouvelle entente au niveau du fonds. Pour les projets, on souhaitait rendre admissible comme ça par résolution l'ensemble des organismes de la MRC des Appalaches, donc d'inclure également les organismes au niveau du territoire de la ville de Thetford pour qu'ils deviennent admissibles dans le cadre du fonds.
Est-ce qu'on a besoin d'une proposition pour ça?
C'est ça, pour officialiser, s'il vous plaît.
Levez la main, moi, je ne vois rien. Là.
Monsieur Barry.
François Barry. Il est rapide, ce François Barry, là. C'est incroyable. Affaire nouvelle, comité de sélection, entente sectorielle, service de proximité.
En fait, c'était également une résolution afin de confirmer la formation du comité de sélection dans le cadre de l'entente sectorielle, service de proximité. Donc, comme ça avait été adopté à l'intérieur du cadre de gestion, c'était d'utiliser la composition actuelle du comité administratif de la MRC pour former le comité de sélection. Monsieur Chabot.
Appui au projet IHV Sogetel, fonds large bande.
Donc, j'ai parlé à Sogetel aujourd'hui et m'annonçait finalement qu'ils vont déposer au fond pour la large bande universelle au fédéral d'ici le 15 mars pour les secteurs de la MRC qui sont moins bien desservis avec Internet haute vitesse, donc qui n'ont pas les vitesses de chargement et de téléchargement et de chargement, en tout cas, peu importe. Le 50-10, finalement, ils ne l'ont pas. Et ils sont donc admissibles à une subvention à laquelle Sogetel va déposer une demande et demande donc un appui de la MRC pour son dépôt de projet.
Pascal Binet, merci. J'ai un autre élément, moi, dans les affaires nouvelles. Je ne sais pas si vous avez sans doute eu l'invitation, mais si vous ne l'avez pas eu, on va vous la retourner. On pourra vous la retourner de toute façon. C'est le 24 février. Il y a un webinaire. Ça, c'est fait par la TREMCA et la CAR. La CAR, c'est le comité administratif là, c'est les ministères qui sont là. Et le sujet, c'est la situation de l'emploi en Chaudière-Appalaches. Alors, on pourra vous retourner l'invitation, mais on aimerait évidemment que les gens s'inscrivent. C'est une rencontre Zoom. Alors, le 24 février à 13h30, une rencontre Zoom sur la situation de l'emploi.
Il y avait un autre point, M. Vachon, au niveau des affaires nouvelles qu'on avait ajouté. C'était peut-être juste un petit suivi dans le dossier d'Optilab.
Oui, c'est vrai. Dans le dossier d'Optilab, on a eu une rencontre avec des techniciens, notamment d'Optilab, qui nous décrivaient un petit peu la situation de dégradation qui est en train de se passer dans nos centres hospitaliers au profit d'un centre hospitalier plus important, celui de Lévis. Donc, c'est des pertes d'emploi pour nous autres. À cette réunion-là, il y avait la ville de Thetford, la ville de Saint-Georges-de-Beauce, et on a convenu qu'on va écrire un document Ce document-là va parler en général de la réforme Barrette, puis de la situation de centralisation là, importante qu'il y a eu, puis où on subit des pertes en région, ne serait-ce qu'au niveau des patrons qu'on n'a plus dans nos CHSLD, puis dans nos. Ben, de toute façon, vous avez vu la situation, pour en venir aussi à la situation d'Optilab. Alors, on va vous revenir là-dessus. C'est la ville de Thetford et la MRC qui va travailler là-dessus. Après, on va contacter la ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Artigan pour leur appui, puis on va envoyer ça au ministre. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Brousseau?
Non, c'était correct pour sa part.
Parfait, merci. Période de questions, bon, on n'a pas personne, ça va. Prochaine réunion
du conseil des maires. On n'avait pas reçu de questions non plus par courriel. Là.
Alors, la prochaine réunion du conseil des maires, j'ai regardé, c'est le 10 mars prochain, à la même heure, j'imagine. Oui. Ça me prendrait une proposition de levée de la séance. Est-ce qu'on a des gens qui sont arrivés, Louis?
Oui, les deux, autant les gens pour le 2 à 1 que Grosbec sont arrivés.
OK. Alors, Daniel Talbot, traditionnellement, lève la réunion. Alors, est-ce que vous voulez prendre une...